Et avant de lire, permettez-moi de vous dire que nous rencontrons de sérieux problèmes aujourd'hui dans les pays dits chrétiens. Un des problèmes, en fait, et parmi ces problèmes, il y en a deux qui sont visibles et non pas les moindres, c'est l'abandon de la formation de disciples et l'effondrement spirituel des chrétiens dans les églises. Et les gens qui devraient se tenir debout, en fait, eh bien, souvent se retrouvent par terre. Pourtant, ils ont été baptisés, pourtant, c'est des gens qui fréquentent l'église depuis un certain temps, mais lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils vivent des déceptions, eh bien, ou qu'ils font face à des tentations de toutes sortes, ils tombent et vous ne les revoyez jamais. Vous connaissez sûrement des gens qui sont comme cela, et la raison pour laquelle ils s'écroulent, c'est parce qu'ils n'ont pas de véritable fondation, c'est parce qu'ils n'ont pas de véritable fondation dans leur vie. Alors, lorsque la tempête arrive, ils sont emportés par celle-ci. Je pense que le texte ce matin est un texte important pour nous qui sommes chrétiens, même pour ceux qui n'ont pas encore fait profession de foi. Je pense que c'est un texte important pour nous parce qu'il n'y a personne qui est épargné dans la vie par les tempêtes, par les vents, par les torrents. C'est les paroles de Jésus. Et on va regarder au verset 24-25 ce que Jésus dit concernant ces choses. Matthieu chapitre 7, on va lire les versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Je vais essayer de parler moins vite. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le ROC, le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Qu'est-il arrivé ici? Les vents se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26-27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà le passage que nous allons examiner ce matin et on va prier avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous invite à vous recueillir. Seigneur notre Dieu, étant conscient que c'est ton Fils Jésus-Christ qui veut nous parler ce matin, Seigneur, et que ce sont ces paroles qui sont citées, nous voulons vraiment que l'homme puisse s'effacer afin que tu prennes toute la place qui te revienne. Seigneur, nous ne voulons pas entendre la parole d'un homme ce matin, nous voulons entendre la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, être enseignés par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu vois ces gens qui sont devant moi, Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Seigneur, tu es un Dieu qui ne cherche pas à avoir un tête-à-tête avec ta créature, mais plutôt un cœur à cœur. Tu connais les besoins du cœur de chacun, Seigneur, je te prie. D'agir avec puissance, de te glorifier, de manifester ta gloire, Seigneur, au milieu de ton peuple ce matin, afin que lorsque nous quittions ce lieu, nous puissions avoir la certitude que tu nous auras visités tous et chacun sans exception. Bénis ta sainte parole, Seigneur, et fais progresser en nous, non seulement notre foi, mais notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors voilà le passage que nous allons examiner ce matin. Jésus parle ici de construire sur une fondation solide. Chers amis, si votre vie est en train de s'écrouler, il serait peut-être bon de prendre un certain temps et d'examiner votre fondation, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la fondation. Les gens réagissent de trois façons lorsque survient une tempête. Il y a ceux qui réussissent à éviter le pire, il y a ceux qui sont détruits par la tempête, et il y a ceux qui se sont préparés d'avance à affronter la tempête. Il est donc important d'apprendre comment traverser efficacement les tempêtes de la vie. Et pour pouvoir, en fait, traverser les tempêtes de la vie, il y a deux choses que Jésus souligne dans ce passage. La première chose, c'est que vous devez construire une maison qui soit solide. Qui a déjà construit une maison ici? Deux maisons. Trois maisons. Qui travaille dans le bâtiment ici? Alors, le Seigneur dit que nous devons construire une maison. Nos vies, frères et sœurs, ressemblent à une maison. C'est ce que Jésus est en train de parler ici. Il est en train de nous faire, simplement de nous montrer que nos vies, en tout cas, nous fait réaliser que nos vies ressemblent à une maison. Quiconque, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Vous êtes tous en train de construire une sorte de maison spirituelle. Moi, je ne peux pas vivre dans la maison que vous êtes en train de bâtir et vous, vous ne pouvez pas vivre dans la maison que je suis en train de bâtir. Au verset 24, le Seigneur parle de deux sortes de constructeurs. Il parle d'un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, verset 24. Il parle ensuite d'un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Pourtant, à bien des égards, il y a des points de ressemblance entre les deux. D'abord, le Seigneur, et c'est ce qui est important, première chose, le Seigneur ne parle pas ici d'un autre croyant, il parle de deux types de personnes qui ont entendu la parole. Il parle de deux soi-disant disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les deux maisons semblent être identiques et pourtant, il y a une grande différence. Et frères et sœurs, en apparence, on ne la voit pas cette différence. De l'extérieur, on ne voit pas cette différence. Parce que la différence, elle se trouve dans la fondation. Premièrement, il y a celui qui a construit sur le roc. Et dans Luc, chapitre 6, verset 48, Luc rajoute ceci par rapport à la même parabole. Vous savez, il dit qu'il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. L'homme sage a creusé profondément et il a construit sur le roc. Vous savez tous qu'une maison qui a une bonne fondation peut résister à la tempête. Et là, il va dire, il y a un autre homme finalement qui a construit sa maison sur le sable. Vous pouvez construire, frères et sœurs, une maison beaucoup plus facilement si vous ne vous préoccupez pas de la fondation. Hein, si vous avez pris la décision de ne pas faire de fondation, eh bien, vous pouvez construire une maison beaucoup plus vite. Vous savez simplement couler une dalle de béton pour faire en sorte que la maison, en tout cas, pour stabiliser, faire en sorte que la maison soit un minimum au niveau. Vous construisez les murs, les planchers et ensuite le toit. C'est plus facile, c'est plus rapide, c'est moins coûteux. Et votre maison va paraître aussi solide que celle de votre voisin en apparence. En apparence. Qu'est-ce qui fait qu'une fondation est solide? Qu'est-ce que cela veut dire construire sous le roc? Jésus l'explique au verset 24. Il y a deux choses, il dit qu'il y a deux choses qui sont nécessaires pour avoir une solide fondation. Quelles sont les deux choses qui font que nous sommes construits sur le roc? Premièrement, Jésus dit, entendre la parole de Dieu. Quiconque entend la parole de Dieu, il dit entendre la parole de Dieu. Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Nous entendons la parole de Dieu et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend et que la foi vient de la parole de Dieu. On entend la parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Et sa parole, eh bien, dans cette parole qui vient frapper notre cœur, il y a le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais c'est le Saint-Esprit qui vient nous enseigner de la part de Dieu, qui vient parler à nos cœurs. Et là, on a une décision à prendre. On accepte ce message, on accepte de le mettre en pratique. Ou on dit ça, c'est pas moi, ça s'adresse pas à moi. Moi, je ne veux pas changer de vie, je vais continuer à vivre comme je veux. Et finalement, bien, la parole n'a pas l'effet escompté dans nos vies. Et malheureusement, il n'y a pas aussi de changement dans nos vies. Hein. C'est du donnant-donnant aussi de ce côté-là, quoi. Le premier ingrédient pour avoir une fondation construite sur le roc, vous devez entendre la parole de Dieu. Quiconque entend ces paroles que je dis, dit Jésus. Voici maintenant le deuxième ingrédient. Regardons attentivement le verset 24. Regardez le verset 24. Le deuxième ingrédient. Quiconque entend ces paroles que je dis. Et qu'est-ce que Jésus ajoute ici? Et les met en pratique. Voilà où nous commençons à séparer ceux qui construisent sur le roc et ceux qui construisent sur le sable. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est quelqu'un qui est en train de construire sa maison sur le roc. Quiconque entend les paroles que je dis, les écoute, mais ne veut pas les mettre en pratique, construit sur du sable. Et on va voir ce qu'il veut dire par là. Chers amis, un de ceux qui étaient là lorsque Jésus a prêché son sermon, ce jour-là, s'appelle Jacques. Et je suis persuadé qu'il ne l'a pas oublié. Regardez ce qui est écrit au chapitre 1 de son épître sur ce qu'il a entendu ce jour-là. Jacques, chapitre 1. On va tourner dans Jacques, chapitre 1. Pour ceux qui ont leur Bible. Jacques, chapitre 1. Rappelez-vous que que Jacques a entendu dire que celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique, c'est celui dont la vie est construite sur une solide fondation. Maintenant, regardez ce qu'il écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Moi, je pense que les épîtres, hein, peu importe qui l'a écrite, que ce soit Paul, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, les épîtres, finalement, c'est le développement de l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus a proclamé les évangiles, il a établi la base de son enseignement, il nous a laissé des disciples, il nous a laissé des apôtres. Et quand vous lisez les épîtres, entre autres ici, vous avez l'impression que c'est une parole de Jésus que Jacques va citer. Mais Jacques, regardez ce qu'il dit. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce qu'il est en train de dire en bon français, là, c'est quand tu viens à l'église le dimanche matin, si ton but c'est simplement d'écouter, de rien retenir, de rien vouloir mettre en pratique ce que le Seigneur t'enseigne, hein, bien, tu te déplaces carrément pour rien, tu perds ton temps. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français. Hein. S'il devait prêcher aujourd'hui devant nous, c'est ce qu'il nous dirait. Hein. Il nous dirait, écoutez, vous êtes rentré ici ce matin, vous êtes venu ici pour recevoir quelque chose. Parce que Dieu a des choses à vous donner. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il a d'abord donné son Fils. Il nous a d'abord donné la vie. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Heureusement que Dieu n'est pas toujours en train de nous demander. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Qui donne à profusion à celui qui non seulement écoute sa parole, mais qui la met aussi en pratique. Et si c'était Jacques qui prêchait ce matin, il aurait dit, écoutez, j'ai entendu le message de Jésus-Christ sur le sermon sur la montagne, parce que Matthieu 7, c'est la fin du sermon sur la montagne. Moi, j'étais là quand il a prêché. Et si vous venez uniquement pour écouter la parole ce matin, mon cœur serait triste. Si Jacques qui parlerait comme ça, mon cœur serait triste, parce que Dieu a de grandes bénédictions à vous donner. Dieu a des grandes richesses à vous donner, des grandes richesses en réserve pour vous. Mais il ne les donne pas à ceux qui se contentent simplement d'écouter. Ces bénédictions, elles vont se voir dans la vie, dans ta vie, mon frère et ma sœur, si tu prends la décision non seulement d'écouter, mais de mettre aussi en pratique ce que tu entends qui vient de la parole. C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Hein? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je crois que Jacques pensait ici, sincèrement, je crois que Jacques pensait à ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il écrit « Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter, car celui qui vient à l'Église, qui entend la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, parce qu'il pense qu'il a tout fait, tout ce qu'il était supposé de faire, se trompe royalement. » C'est comme si quelqu'un viendrait à l'Église ce matin et il dirait « Vous savez, le Seigneur m'a parlé, j'ai été profondément touché par le message et par les chants, et qu'est-ce qui arrive par après? Vous ne voyez aucun changement dans la vie de cette personne. Vous ne voyez aucun changement dans la façon de vivre de cette personne. Jacques dit que cette personne se trompe elle-même par de faux raisonnements en se contentant d'écouter la parole de Dieu et en ne la mettant pas en pratique. Jésus dit, Matthieu chapitre 6, verset 24, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Quelle sagesse! Quelle sagesse! Quelle sagesse! Les récompenses qu'il va recevoir de la part de Dieu, les bénédictions que Dieu va lui accorder. Il va grandir spirituellement. Il va ressembler davantage à la personne de Jésus-Christ. Il va rayonner comme le soleil. Demeurons quelques instants dans Jacques. Je vous invite à regarder au chapitre 2. Nous allons lire un des passages les plus controversés de la Bible et je suis persuadé que ce que je vais lire demeure le message que la plupart des églises en Europe ont besoin d'entendre, en Europe et en Amérique, surtout aux États-Unis, où, entre guillemets, on se déclare un pays chrétien. Mais bon, l'Europe est à la croisée des chemins, hein, c'est un continent qui a un héritage chrétien, et je pense que ce message il s'adresse à ceux qui sont responsables de partager la parole, et ce n'est pas juste le prédicateur, mais ce sont tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui sont appelés à proclamer cette parole. Jacques n'est pas compliqué. Hein. Quand vous lisez l'épître de Jacques, ce n'est pas quelqu'un de compliqué. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Vous dites ça ici, tourne autour du pot? Ce n'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot. Ce n'est pas quelqu'un qui perd son temps. Il est direct. Hein. Il dit que si vous vous contentez d'écouter la parole et que vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes à côté de vos pompes. Hein. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Hein. Et là, il va poser une question, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un? Mais moi, ça m'a interpellé. Hein. Je vais lire les preuves. Je suis obligé de lire le reste pour qu'on puisse se mettre dans le contexte. Mais moi, ça m'a interpellé en préparant ce message. J'espère que ce matin, eh bien, le Saint-Esprit fera la même chose dans vos cœurs. Regardez ce qu'il dit. Mes frères, que sert-il à quelqu'un. Ça inclut les sœurs aussi, hein? Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'est ce qu'on appelle la foi sans les œuvres. Il continue. Regardez la suite, 15 à 26. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. » Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte, elle est morte. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu, mais sais-tu que les démons aussi croient et qu'ils tremblent? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. En fait, en d'autres versions, Abraham crut à Dieu, et il fut reconnu juste aux yeux de Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela signifie, et nous devons être clairs là-dessus, nous sommes sauvés par grâce, et ce, par la foi seule, et non par une œuvre quelconque. De penser qu'on peut être sauvé en accomplissant une bonne œuvre, c'est de dire à Dieu que l'œuvre que Jésus a accomplie à la foi n'était pas suffisante pour me sauver. Peu importe l'œuvre, peu importe la grandeur de l'œuvre, Christ a tout accompli à la croix, l'œuvre, elle a été reconnue parfaite à la croix, puisque Dieu l'a ramené de la mort à la vie, il a confirmé que ce que Jésus a accompli répondait parfaitement aux exigences de la loi. Mais qu'on puisse penser dans notre cœur que si on pouvait accomplir une petite œuvre qui m'empêcherait peut-être de souffrir moins, parce qu'il y en a qui ne sont pas certains où ils vont aller après, hein, mais que je pourrais souffrir moins, c'est un petit peu insulter Dieu en dire, écoute, c'est beau, Jésus est mort pour moi, mais moi je voudrais en faire un petit peu plus. Dieu dit, arrête, tout était fait. C'est important qu'on puisse se rappeler de ces choses-là. Il n'y a aucune œuvre qu'on peut faire qui peut effacer un seul de mes péchés. C'est l'œuvre qui est accomplie à la croix qui efface tous mes péchés. Toutes les religions, sans exception, sont incapables de promettre aux gens avec certitude que lorsqu'ils vont mourir, ils s'en vont au paradis. Aucune religion. Aucune. Tout est accompli à la croix. C'est ça qui est magnifique. Et tout ce qu'on a à faire, c'est on entend la parole, on écoute la parole, notre foi progresse, et tout ce que Dieu nous demande, l'obéissance à la parole. Et si tu obéis à la parole, il y a des riches bénédictions qui t'attendent. Parce que je vais être honoré à travers mon enfant qui obéit à ma parole, qui marche devant son Dieu. Amen. Oui, c'est par grâce et par la foi seule et non par une œuvre quelconque. Et tout cela parce que dans son amour, Dieu a eu pitié de nous. Dieu nous ne devait rien. Est-ce que vous reconnaissez ça ce matin? Dieu, vous ne devez rien, il ne doit rien, Dieu. Mais dans sa grâce, dans son amour, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son propre fils. Quand vous grattez un peu, est-ce que vous réalisez ce que ça représente? Celui qui tient l'univers dans ses mains a décidé un jour de se faire homme dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus dit, pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et on était tous perdus sans exception, puisque tous ont péché et étaient privés de la présence de Dieu, c'est-à-dire d'entrer au paradis. La porte d'entrée au paradis, elle est ici.
il est là.
C'est pas à travers une religion. Et je ne suis pas là pour toutes les énumérer, il y en a plus de 10 000 dans le monde. Mais c'est à travers une relation personnelle et intime avec la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la force, ça, c'est le vrai christianisme. Amen. Paul dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par, point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier, c'est-à-dire que si je pouvais gagner mon ciel, eh bien, je m'en vanterais. Et personne qui peut se vanter de pouvoir gagner son ciel, puisque les portes nous ont été ouvertes par Jésus-Christ. Ils ajoutent dans Romains chapitre 11, verset 6, « Ah, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pouvez pas confondre la grâce et les œuvres. Vous devez faire un choix. Soit que vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, soit que vous êtes sauvé parce que vous faites de bien. Et pourtant, Jacques dit ici que la foi sans les œuvres, elle est morte. Est-ce que Paul et Jacques sont en désaccord ici? Absolument pas. Ils sont plutôt d'accord. Et pourquoi j'ai pris ce texte-là, qui est un des plus compliqués? C'est pour nous faire réaliser quelque chose, parce que dans les milieux évangéliques, hein, la religion évangélique, ça existe aussi. Hein. Ça existe aussi, frères et sœurs. Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche et qui aimeraient plutôt aller ailleurs et qui viennent à l'église de peur de ce que les gens vont penser s'ils voient que leur siège est vide, hein? C'est de la religion, ça. Hein? Ça existe aussi dans nos milieux. Il y a des gens qui font des œuvres dans l'église évangélique pour bien paraître aux yeux des hommes, mais qui ne se posent pas la question « qu'est-ce que Dieu attend de moi? » C'est de la religion, ça. Hein? Exercer un ministère alors qu'on n'en a pas envie, mais qu'on le fait pour plaire aux gens autour de moi, pour que je paraisse bien. Le paraître, c'est la religion, hein? Mais Jésus-Christ, c'est le être. Être. Tout est là, toute la différence est là, frères et sœurs. Bon, on n'ouvrira pas de parenthèse pour ne pas partir trop tard. On va continuer. Hein? Ce que Jacques ici, Paul parle, c'est... En fait, ce que Paul et Jacques parlent ici, ça représente le côté pile et le côté face de la même pièce de monnaie. Et c'est exactement ce que Jésus affirme lorsqu'il dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. » Il est important de comprendre que même si nous sommes sauvés par la foi seule, la foi qui sauve n'est jamais seule. La foi qui sauve n'est jamais seule. Voilà où Paul et Jacques se rejoignent. Est-ce que vous saisissez, bien que nous soyons sauvés par la foi seule, la foi qui sauve n'est jamais seule? Et je vais expliquer la différence entre Paul et Jacques ici. Paul parle de la façon d'être justifié aux yeux de Dieu, tandis que Jacques parle de la façon dont nous pouvons montrer que nous sommes justifiés aux yeux des hommes. Paul, lui, c'est uniquement de la théologie, c'est spirituel, c'est dans le cœur. Paul, il parle du cœur. Mais là, Jean qui va parler, écoute, tu vas montrer aux gens que tu es sauvé, que tu es né de nouveau. Et c'est à travers les œuvres que tu vas faire. Tu ne feras pas les œuvres pour être sauvé, mais parce que tu es sauvé, tu vas montrer aux gens que tu es sauvé, tu vas faire des œuvres. Voyez-vous toute la différence? Il y en a qui font des œuvres pour être sauvés, pour essayer de gagner leur ciel. Il y en a d'autres parce qu'ils sont sauvés, par reconnaissance au Seigneur, et parce que c'est ce que le Seigneur leur demande. Ils vont faire des œuvres. Des œuvres de justice, des œuvres qui sont préparées, que Dieu a préparées d'avance pour chacun qui a fait cette profession de foi. Et c'est des œuvres extraordinaires, parce que c'est des œuvres qui vont nous accompagner, c'est ce que l'auteur de l'Apocalypse nous dit. Quand on entre au ciel, nos œuvres nous accompagnent. On ne rentre pas tout seul, on rentre avec nos œuvres. Voilà pourquoi la foi et les œuvres, si la foi seule sauve, la foi seule, la vraie foi, la foi qui sauve, elle est accompagnée d'œuvres. Amen. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » Jacques dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Vous ne pouvez pas voir mon cœur ce matin. Vous ne pouvez pas voir la mesure de foi qu'il y a en moi. Mais Dieu peut voir dans mon cœur. Premièrement, Paul parle de la façon dont nous sommes justifiés devant Dieu. Jacques parle de la façon dont nous montrons aux gens, aux gens que nous sommes reconnus justes devant Dieu. Paul parle de la source, de l'origine de notre salut. Jacques parle du fruit que manifeste celui qui est sauvé. Ce sont les fruits de l'esprit, pas les fruits de la chair. Il faut faire attention, hein, frères et sœurs, de la façon qu'on parle des fois. On regarde un frère ou une sœur chrétienne, on dit, lui, là, il a un sapristi de caractère. Hein? On ne devrait jamais dire ça. Hein? Jamais. Hein? On devrait dire, par charité, il y a une forte personnalité, mais pas dire qu'il y a un sapristi de caractère. Hein? Parce que de dire qu'il y a un sapristi de caractère, là, ça fait référence au premier Adam. Ça laisse sous-entendre que le frère ou la sœur ne sont pas sauvés. Parce que le but de Dieu, c'est faire quoi? Quand on est sauvé, quand on est né de nouveau, c'est le caractère qu'on a hérité du premier Adam dans le jardin d'Éden. C'est qu'il y a un miracle qui se passe à la croix, c'est que c'est le caractère de Jésus-Christ qui commence, qui pénètre en nous. Et là, Dieu va travailler en nous pour faire en sorte, dans les épreuves, dans les tempêtes, dans tout ce qu'on vit au quotidien, de faire en sorte que ce caractère-là se développe jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui. Et le caractère de Christ, c'est de produire, contrairement au premier Adam, non pas les fruits de la chair, de notre nature humaine, mais les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Ça, c'est ce à quoi Dieu s'est engagé lorsqu'il nous a sauvés. Voilà pourquoi on ne devrait jamais dire, elle, là, ouais. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais dit à une sœur qui me tombait vraiment sur les nerfs. Ouais. J'avais dit, toi, tu as reçu le don d'exaspération. On n'a peut-être pas dû y dire ça, mais j'ai demandé pardon par après, hein. Mais le Seigneur, à travers cette sœur-là, il était en train de me montrer où j'en étais rendu, quoi, au niveau de ma foi, hein, au niveau de ma progression spirituelle. Et si vous avez des gens qui vous tombent sur les nerfs dans votre quotidien, rendez grâce à Dieu parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, ça vous permet de tester la valeur de votre foi où vous en êtes rendu. Amen. Paul parle de la fondation, Jacques parle de la maison, Paul parle de la fondation, le cœur, Jacques parle de la maison, ce qui est visible. Jacques, c'est toujours ce qui est apparent. Paul, c'est ce qui est caché. Paul parle de la disposition du cœur, Jacques parle d'une démonstration pratique. Paul parle de la foi qui sauve, Jacques parle des signes extérieurs qui montrent que nous avons la foi qui sauve. Paul parle de l'assurance du salut que nous avons dans notre cœur. Jacques parle que nous accomplirons des œuvres qui accompagnent que nous sommes sauvés. Finalement, tous les deux se rejoignent. Ce que Jacques dit ici, c'est que le salut ne se limite pas à faire une confession de foi. Regardez ce qu'il dit au verset 14. « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » En d'autres mots, il dit, « À quoi bon de dire que tu es chrétien si ta conduite démontre le contraire? » Il faut avoir plus qu'une attitude pieuse pour pouvoir espérer aller au ciel. C'est ça que Jacques est en train de nous dire ici. Tu peux te promener toute la journée comme ça, hein? Mais tu es en direction de l'enfer, hein? Jacques, il dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la foi, hein? C'est pas juste de dire que tu as la foi en Jésus-Christ, hein? Montre-moi dans la pratique que tu as cru en Jésus-Christ. C'est dans ta pratique que tu vas me prouver que tu as cru, tu as rencontré le Seigneur Jésus un jour. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont répondu à un appel pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, suite à la prédication de l'Évangile, et parce que d'une certaine manière, ils servent dans l'Église, qu'ils vont aller au paradis, alors qu'ils n'ont, excusez-moi de le dire, alors qu'ils n'ont pas plus de foi que le diable lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais soumis leur vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est capital. Est-ce que votre vie est soumise à la Seigneurie de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ se limite à être votre sauveur? Et ça ne veut rien dire à ce moment-là. Mais est-ce que Jésus-Christ est aussi votre Seigneur? Et là, ça veut tout dire. Est-ce qu'il est votre Seigneur? Avez-vous fini, depuis que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ, de diriger votre vie comme bon vous semble? Depuis que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que vous voyez le péché comme Dieu le voit? Comme un poison mortel qui cherche simplement à vous empêcher d'entrer au ciel? Est-ce que votre façon de voir les choses a changé? Vous voyez maintenant les choses comme Dieu les voit? Et ce qui vous permet de confirmer que vous voyez les choses comme Dieu le voit, c'est parce que vous méditez les Écritures. Jacques est très clair ici. Il va donner deux exemples et une illustration rapidement. Regardez ce qu'il écrit au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et si vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, à quel moment Abraham fut-il considéré comme juste? Dans Genèse 22, il offre son fils en sacrifice. Mais dans Genèse chapitre 15, verset 6, 7 chapitres avant, il est écrit qu'Abraham eut confiance à l'Éternel et qu'il fut reconnu comme étant juste. C'est pourquoi, le texte dit, c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, l'a reconnu comme juste. Qu'est-ce qui est différent ici, entre le chapitre 15 et le verset 22? Le chapitre 15 nous dit qu'Abraham a cru en Dieu, qu'il a été reconnu juste aux yeux de Dieu. Le chapitre 22, Abraham, par son obéissance, va démontrer qu'il a la foi qui sauve. Il va accomplir l'œuvre que Dieu lui demande d'accomplir, et c'est d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Il le fait. Il le fait. Il voulait le faire. Il aura obéi jusqu'à la fin. Mais regardez comment Abraham vient soutenir cette foi qui sauve. Il dit à ses deux serviteurs avant de monter sur la montagne, « Attendez-nous ici, moi et mon fils, nous allons aller adorer l'Éternel sur la montagne, et nous reviendrons. » Il ne dit pas « et je reviendrai », il dit « et nous reviendrons ». Abraham avait la foi que Dieu avait la puissance de ramener de la vie à la mort tout être humain. Dieu avait la capacité de ressusciter. Alors il dit à ses serviteurs, « On va revenir tous les deux. » Et même s'il savait qu'il aurait dû sacrifier son fils par obéissance à Dieu, il savait que Dieu avait la capacité, là-haut sur la montagne, de ramener son fils de la mort à la vie et qu'il reviendrait avec. Frères et sœurs, vous qui confessez le nom de Jésus-Christ, vous qui avez la foi dans sa crucifixion, est-ce que vous avez la foi aussi dans la résurrection? Est-ce que vous croyez en la résurrection des morts? Oh, c'est pas fort un matin, je vais tomber. Est-ce que vous croyez en la résurrection des morts? Hein, frères et sœurs, c'est notre espérance. C'est notre espérance. Pourquoi les gens pleurent au-dessus d'un cercueil? Parce qu'ils ont l'impression que c'est la dernière fois qu'ils les voient. Et le seul souvenir qu'ils ont, c'est un cercueil fermé, un cadavre. Et c'est terminé. Ma grand-mère a pratiqué la religion quand son mari est mort, elle voulait se jeter dessus. Enterrez-moi avec. Parce qu'elle n'avait pas d'espérance de la résurrection des morts. Elle pensait que c'était terminé. Mes frères et sœurs, nous, on a cette espérance. Et qui nous a montré le chemin? Qui nous a ouvert la porte? C'est Jésus-Christ. Il est le premier qui a été ramené de la mort à la vie. Et il dit que tous ceux qui vivent en obéissance à la parole de Dieu, qui placent leur foi dans le sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour recevoir le pardon de ses péchés, il les ramènera aussi un jour de la mort à la vie. Non pas pour, je l'ai dit d'aujourd'hui, hein, pas se promener sur un nuage, là, comme si on avait fumé un joint avec une harpe puis se promener autour de la terre. On va régner avec lui, nous dit la parole. On va régner avec lui. C'est extraordinaire. Regardez la suite ici. Abraham a vraiment cru en Dieu, il l'a démontré en offrant son fils en sacrifice. En d'autres mots, il est en train de dire, « Ne me faites pas croire que vous êtes sauvés, que vous aimez Dieu, si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. » Chapitre 7, gardez un doigt dans Jacques, chapitre 7. Frères et sœurs, ça fait 17 ans que je suis votre pasteur. Hein? Vous savez que j'ai toujours proclamé l'Évangile. Je ne suis pas ici pour me faire aimer de personne. Hein? Ce qui est important pour moi, c'est d'être reconnu par le Seigneur et de dire ce que le Seigneur me met à cœur de dire. Dans le même chapitre qu'on a commencé tantôt, quelques versets avant, il est écrit ceci, dans Jean, Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur », chapitre 7, Matthieu 7, verset 21. Regardez ce qu'il dit, Seigneur, ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, enseigné en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Vous ne faites pas partie de mon groupe. Vous n'êtes pas mes enfants. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché. » Frères et sœurs, vous savez ce qui est extraordinaire? Le miracle de la nouvelle naissance, ça nous donne la capacité en Jésus-Christ de dire non au péché. ça nous donne la capacité aussi, quand on voit un frère ou une sœur qui est en train de pécher, d'aller la trouver et avec amour de la reprendre, pas de l'excommunier, mais de la reprendre pour la réintégrer dans l'Église, pour la réintégrer dans la famille. Mes frères et sœurs, acceptez simplement le Seigneur Jésus comme sauveur, ça vous mène nulle part, nulle part, nulle part. Ça vous manque au plus sur la condamne parce que vous commettez des péchés. Vous dites, mais oui, mais je suis censé être sauvé. Mais pourquoi je continue à commettre des péchés tout le temps? Pourquoi c'est toujours le même péché? Ça fait 30 ans que je suis chrétien, je continue toujours. Parce que Jésus-Christ n'a jamais été ton Seigneur. La délivrance, elle est là, c'est quand il est Seigneur. Puisqu'il a été tenté en toutes choses et qu'il a résisté à toute tentation, il n'a jamais péché, nous dit la parole. Il a la solution. Amen. Et puis, là, Jacques va donner un deuxième exemple rapidement au verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers? Jacques, chapitre 2, verset 25. Rappelez-vous que Jacques parle de la façon dont nous pouvons montrer que nous sommes justifiés aux yeux des hommes. Vous ne pouviez pas voir le cœur de Rahab, mais laissez-moi vous dire ce qui est arrivé à Rahab. Rahab était une prostituée qui fut trouvée juste devant Dieu. Elle a vu sa vie être tellement transformée qu'elle va marier un prince d'Israël, devenant ainsi l'arrière-grand-mère du roi David, pour faire ainsi partie directement de la lignée du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Une prostituée. Vous souvenez-vous ce que Jésus a dit aux pharisiens? Les prostituées et les voleurs, les menteurs, les pécheurs vont entrer avant vous dans le royaume de Dieu. Et là, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à des gens qui n'avaient jamais eu rien à se reprocher. C'est ceux-là qui sont les plus difficiles à convertir. Ils n'ont rien à se reprocher. Hein. Mais Jésus dit, écoute, si tu te penses que tu es juste, je ne suis pas venu pour les justes. Hein. Je suis venu pour les pécheurs, pour des prostituées, pour des voleurs, pour des fraudeurs, pour des menteurs. Et Jésus dit aux pharisiens, les prostituées et les voleurs vous précéderont dans le royaume de Dieu. Je suis convaincu que Jésus avait Rahab en tête. Et sous-entendant, il y en a même une qui a participé à ce que je viens au monde. Hein? Ouais. Chers amis, si votre religion n'a pas changé votre cœur, vous êtes mieux de changer de religion. Le simple fait de dire « j'ai cru, j'ai entendu la parole de Dieu » ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Et celui qui a la foi qui sauve cherche à obéir à Dieu, comme ce fut le cas d'Abraham. Jacques nous donne deux exemples. Il va maintenant nous donner une illustration classique. Regardez au verset 26. « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Frères et sœurs, vous avez des poumons, vous avez un cœur, vous avez un œsophage, vous avez un estomac, vous avez une rate. Les intestins, ainsi de suite. Tout cela constitue des faits. Parce que si vous n'avez pas ça, vous avez de sérieux problèmes ce matin. Mais ça constitue des faits, n'est-ce pas? C'est ce que le corps est normalement constitué. Mais le corps, lui, est mort. À quoi servent les faits théologiques s'il n'y a pas de vie? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Ce ne sont pas les œuvres qui font qu'un corps est vivant, c'est la vie qui vous rend capable d'accomplir ces œuvres. Voyez-vous la différence ici? Vous pouvez faire semblant qu'un mort est vivant en faisant bouger son corps, mais cela ne lui donnera pas la vie. Ah, vous pouvez prendre un mort puis jouer avec ses jambes puis ses bras. Hein? Dans la police, ça m'est arrivé, moi. Tu dois prendre un cadavre et le mettre, aider les gens à le transporter. Bien, même il y en a dans la famille qui disent je pense qu'il est vivant. Ah, c'est vrai, hein? Il y en a qui disent je pense qu'il est vivant. Touchez-y pas, je pense qu'il est vivant. Là, il est mort, hein? Il est froid, hein? Mais ce n'est pas parce que vous manipulez un corps que cela lui donne la vie. C'est plutôt le fait d'avoir la vie d'en haut, celle qui vient d'en haut, celle qui vient de Dieu, qui permet d'accomplir les œuvres. Il n'y a aucune contradiction ici. Ce que nous disons, c'est ceci. Si vous voulez construire sur le roc et ne pas vous limiter à seulement être des auditeurs, eh bien, vous devez construire sur le roc. Il y a des millions de gens qui fréquentent les églises le dimanche matin, qui écoutent un sermon, qui vont mourir. Et je vais dire un gros mot, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, et qui vont se retrouver en enfer parce qu'il n'y a jamais eu de changement dans leur vie. Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche matin et qui s'appuient qui mettent leur confiance dans leur religion, que leur religion va les sauver, que va les sauver, va leur permettre d'entrer au ciel, et qui sont directement sur le chemin de l'enfer. Ce n'est pas un mot qu'on aime entendre dans nos églises, mais c'est une réalité. Il n'y a pas quelqu'un, Jésus nous a aimés énormément, mais il n'y a pas une personne comme Jésus-Christ dans toute la Bible qui a parlé autant de l'enfer. Et pourquoi il en a parlé? Pas pour nous faire peur. Il en a parlé parce qu'il nous aime. Pourquoi Jésus a parlé de l'enfer? Le diable, dans la société, vous regardez, le diable, ça n'existe pas l'enfer dans la société. Le diable a réussi à faire croire aux gens qu'il meurt, tout est beau, hein? Mais Jésus, c'est pas un menteur. Le diable, il dit que c'est le père du mensonge, mais Jésus, il est venu pour nous donner la grâce et la vérité. Et Jésus, il nous parlait de la vérité. Il a dit, je peux vous dire que l'enfer existe parce que c'est moi qui l'ai créé. Ouais. Pas pour vous, pour les anges et pour les démons. Malheureusement, depuis la chute, il y a des hommes qui ont décidé de vivre contrairement à tout ce que Dieu veut. Et il y a des hommes qui vont y aller aussi, c'est ce que la parole nous dit. Hein. Moi, je n'invente rien. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je veux simplement vous rappeler en tant que frère et sœur en Christ, en tant qu'être humain, que l'enfer, c'est une réalité. C'est quelque chose d'important. Et ce n'est pas un lieu où il va y avoir des milliers de vierges. Non, absolument pas. Hein. Quand vous lisez Apocalypse, c'est épouvantable ce qui attend les gens en enfer. Et quand vous lisez Apocalypse, c'est extraordinaire ce qui attend les gens qui vont aller au paradis. Hein. Mais c'est un choix qu'on doit faire. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon parrain, ce n'est pas mes grands-parents qui peuvent faire ce choix, c'est moi qui dois faire ce choix. Dieu m'a donné le libre arbitre, j'ai le choix, c'est moi qui dois prendre la décision. Et pourquoi c'est important que je puisse prendre la décision? Afin que quand je comparaîtrai devant Dieu, je ne puisse jamais rejeter la faute sur quelqu'un d'autre s'il me dit, écoute, Jean Grette, tu n'as pas ton billet d'entrée. Deuxièmement, rapidement, vous pouvez vous attendre à ce que toutes sortes d'éléments soufflent avec force sur votre maison. Revenons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, et essayons de comprendre ce que Jésus dit ici. Il dit, et c'est très important, que les éléments vont tomber sur les deux maisons. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. De quelle maison parle-t-il? Celle qui était fondée sur le roc. Verset 26, 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés ont battu cette maison. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle est tombée. Et il fait référence à quelle maison? Celle qui n'avait pas de fondation, qui n'était pas construite sur le roc. Chers amis, ce n'est pas parce que vous êtes sauvés qu'il n'y aura pas de tempête dans votre vie. Attendez-vous à vivre des tempêtes. Amen. De dire aux gens que si vous acceptez Jésus-Christ, là, c'est le bonheur parfait, ça, c'est un faux évangile. Acceptez Jésus-Christ, la guerre commence. Et vous allez en avoir des tempêtes, vous allez en avoir des torrents, vous allez en avoir des coups de vent. Vous allez en avoir des inondations dans votre vie spirituelle. Attendez-vous à vivre des tempêtes. Jésus dit, la pluie est tombée, c'est la pression qui vient d'en haut. Les torrents sont venus, c'est-à-dire les inondations sont venues, c'est la pression qui vient d'en bas. Et les vents ont soufflé, c'est la pression qu'on subit autour de nous à tous les jours. L'homme né de la femme, dit Job, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Job chapitre 14, verset 1. Les tempêtes surviennent autant dans la vie de ceux qui sont sauvés que dans ceux qui ne le sont pas. Avez-vous construit sur le roc ou sur le sable ce matin, frères et sœurs? Parce que tôt ou tard, vous allez traverser des tempêtes et vous savez ce que la tempête va faire. Elle va vous montrer si oui ou non vous avez une fondation. Voilà tout ce qu'elle va faire. Voilà le but de la tempête. Elle va éprouver votre foi, et la foi qui ne peut pas être éprouvée est une foi qui est morte. Il y a combien de gens, écoutez, qui viennent à l'église, qui lèvent les mains, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui louent le Seigneur, qui pleurent le dimanche matin, presque à tous les dimanches, et le moindrement qu'il y a une grosse tempête dans leur vie, c'est fini, hein? Fini. Ah, moi, je pensais que c'est le Seigneur qui encaisserait la tempête à ma place. Je pensais pas que j'aurais des tempêtes, moi. Je pensais que le ciel m'était ouvert et tout serait bleu toute ma vie, hein? Ah non, hein? Absolument pas. Hein? Il y en a combien qui sont venus ici? La moindre tempête. Chut! C'est vrai ou pas? Oui. Hein? Moi, je peux pas compter les tempêtes hein, qui sont venues me frapper. Je peux pas raconter les vents qui sont soufflés contre moi, les inondations qui m'ont passé par-dessus la tête. Mais je peux vous dire, et ce sans vantardise, hein, que le premier qui m'a annoncé l'Évangile m'a dit, ta fondation, construit sur le roc, mon ami. Construit sur Jésus-Christ, parce que ça va venir assez vite. Parce que tu as changé de camp. Hein?
n'es plus du côté des ténèbres, tu es du côté des lumières maintenant. Et celui qui est du côté des ténèbres, il n'est pas trop content, il ne te laissera pas la vie facile. Hein? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen! Ouais. Ne pensez pas que parce que vous êtes sauvés, que vous n'aurez plus de difficultés ni aucun problème. Tôt ou tard, les tempêtes vont venir. Et si vous vivez en fonction des circonstances plutôt que sur la parole de Dieu, vous allez finir par penser que Dieu ne vous aime pas. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça n'arrive pas à l'autre. Ah, pourquoi? Moi, j'ai perdu mon emploi. Lui, il garde son emploi. Moi, je travaillais comme un forcené. Lui, il fait rien. C'est un fonctionnaire. Comme Salvatore. Et là, on a l'impression que Dieu nous aime moins. J'aimerais simplement ajouter ceci ce matin. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe la couleur de votre peau, peu importe la langue que vous parlez, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu vous aime tous de façon égale. Quand vous péchez, Dieu, comme pas moins, Dieu est attristé de voir son enfant qui pêche. Quand vous obéissez à sa parole, Dieu se réjouit dans le ciel avec les anges de voir que son enfant marche en nouveauté de vie dans la personne de Jésus-Christ. Chers amis, les tempêtes vont venir, vous finirez par tomber malade, vous finirez par vivre des choses difficiles, vous serez persécutés parce que vous êtes chrétiens, certains parmi ceux que vous aimez le plus finiront par vous décevoir et vous attrister, mais toutes ces choses ne peuvent pas démolir quelqu'un dont la vie est construite sur le roc. Je ne dis pas qu'il ne sera pas attristé. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dit Paul dans Romains chapitre 8. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, et non pas à l'absence de ces choses, mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire au milieu de la tempête, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il nous a aimés, il nous aime, il nous a aimés, il l'a démontré, il nous aime encore puisqu'il ouvre encore la porte pour le pardon aujourd'hui. Voilà, la porte, elle est là, là. Hein? Il n'y a pas 56 portes, c'est pas la porte de l'église en avant, c'est celle-là. La porte qui vous permet d'entrer au ciel, c'est la croix. Elle n'est pas large, hein? Mais c'est celle-là qui nous permet d'entrer au ciel parce que c'est là qu'on reçoit le pardon de nos péchés. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie, cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Hébreux chapitre 15, versets 5 et 6. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a dit, « Que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Que peut vous faire un homme si Dieu est pour vous? Qui peut être contre vous? Amen! Et le mal que les gens complotent de vous faire, si vous appartenez au Seigneur, si vous êtes en obéissance dans votre vie avec le Seigneur, le mal que les gens cherchent à vous faire, Dieu va le renverser, va le tourner en bien. Joseph, dans Genèse. Et vous allez avoir la force de pardonner à ces gens qui ont comploté pour vous faire du mal. Parce que vous avez le caractère de Christ qui habite en vous. Vous avez le Christ, l'Esprit de Christ qui vous anime. Vous regardez le monde aujourd'hui, hein? On a foutu Dieu dehors, hein? Jésus-Christ, on n'en parle même plus, hein? Mais regardez la haine, la rancune, l'amertume, la vengeance. Les pays sont plus capables de s'entendre. On est au bord d'une guerre, hein? Faut pas se le cacher, hein? Il manque juste une petite étincelle pour que ça pète de partout, hein? Ouais. Mais celui qui est capable de ramener les gens à vivre en paix, c'est la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous devez vous construire une fondation solide si vous voulez affronter les tempêtes de la vie pour pouvoir demeurer debout. C'est ce que Jésus dit. Et lorsque la tempête surviendra, vous pourrez alors vous attendre à recevoir une bénédiction qui vous fortifiera, qui solidifiera davantage votre foi et finira par vous rendre inébranlable. Remarquez encore une fois ce que Jésus dit au verset 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Frères et sœurs, vous allez recevoir des épreuves, vous allez avoir des tempêtes de toutes sortes dans vos vies qui vont venir vous frapper, mais vous ne vous écroulerez jamais parce que sous vos pieds, vous vous appuyez sur le roc qui est la personne de Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui n'a pas de fondation, écoutez, qui vit par ses sentiments, qui vit par les circonstances, quand il arrive une circonstance défavorable, il tombe, il s'écrase comme une crêpe. Et là, vous devez le ramasser avec la spatule, hein? Oui, en petits morceaux, quoi. C'est important, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles? Pourquoi certaines s'écroulent-ils? Pourquoi certains sont écrasés par le poids des épreuves? Parce qu'ils ont construit sur le sable mouvant des bonnes intentions et sur le terrain vaseux de l'activité religieuse. Mais ils n'ont jamais construit leur vie sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Je ne parle pas ici de perfection chrétienne. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes sauvés, que vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ et que les tempêtes vous frappent de plein fouet, vous ne serez pas envahis par certains doutes. Il est possible que vous doutiez. Je ne suis pas en train de dire que vous ne chuterez pas. Il est possible que vous chutiez. Rappelez-vous, lorsque Pierre a frappé, lorsque la tempête a frappé Pierre, c'est-à-dire après qu'il eut régné le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques fenêtres de sa maison qui sont parties en éclats. Il y a quelques tuiles sur le toit de sa maison qui ont éclaté aussi, qui ont été emportées par le vent. Mais après que la tempête fut passée, Pierre était toujours debout et est devenu l'apôtre qui, le jour de la Pentecôte, a prêché un puissant message de salut à tous ceux qui l'entendaient. Frères et sœurs, tournez rapidement. Il me reste 2 minutes. Tournez dans Marc. Marc chapitre 16. Verset 7. Regardez, Pierre, il a renié le Seigneur Jésus. Hein. Il ne va pas être gros dans son pantalon, hein, parce qu'il avait entendu le Seigneur dire, écoute, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant Dieu. Hein. Ouais. Il ne va pas être gros. Hein. Et pourquoi le Seigneur il a pardonné à Pierre? Est-ce que le Seigneur se contredit? Non. Pierre, il s'est repenti. Voilà le secret. Il s'est repenti. Il s'est repenti, frères et sœurs. Ça, c'est le secret qui a ramené Pierre à Christ. Regardez maintenant, Marc chapitre 16, verset 6. Il y a quelqu'un qui parle à Pierre ici, qui parle aux femmes. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais regardez ce qui est intéressant dans le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il l'a dit. Pourquoi il ne dit pas allez dire à ses disciples qu'il va les attendre en Galilée? Allez aussi chercher Pierre qui s'est repenti. Allez le chercher. Parce que Dieu lui a pardonné. Hey, ça, là, ça doit avoir été un baume sur le cœur de Pierre, hein? De dire, je l'ai renié, le Seigneur ne m'a pas rejeté. C'est vrai, je m'étais repenti, mais j'étais rempli de doutes. Je me posais toutes sortes de questions. Est-ce que j'avais perdu mon temps pendant ces 3 années que j'ai suivi le Seigneur Jésus? Mais quelle joie de savoir. Non, Pierre, écoute, l'ange a dit, les disciples et toi, il a nommé ton nom. Il n'a pas nommé les dix autres. Toi, il a dit, Pierre, dites-lui à Pierre que je l'attends aussi en Galilée. Frères et sœurs, peu importe le péché, peu importe où vous allez chuter, peu importe où vous allez tomber, il n'y a pas un péché qui peut empêcher le Seigneur de vous pardonner si vous vous repentez de vos péchés. Acte chapitre 3, verset 19, suite à son message, l'apôtre Pierre, il dit, « Convertissez-vous et repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. » C'est toujours la même chose, repentance, convertir. Convertir, ça veut dire quoi? Ce péché-là, je le vois différemment maintenant. C'est terminé. Mais vous savez pourquoi il a pu tenir debout face à la tempête? Il avait reçu la vie d'en haut, il connaissait Dieu, il avait entendu la parole de Dieu, il avait cru au Fils de Dieu, il s'était prosterné aux pieds de Dieu, il s'était humilié. Oui, chers amis, nous sommes frappés par les tempêtes de la vie, nous sommes même parfois ébranlés, mais nous ne nous écroulons pas parce que notre foi est construite sur le roc et ce roc s'appelle Jésus-Christ. Pouvez-vous dire ce matin, ma maison est construite sur rien de moins, que le sang de Jésus et sur la justice de Christ, lui qui est le rocher sur lequel j'ai construit ma vie. Amen. Quels sont ceux qui peuvent dire ça ce matin? Levez votre main. Oui. Amen. Car tout autre terrain n'est rien d'autre que du sable mouvant. Il y a des milliers de personnes dans les églises aujourd'hui, quand elles sont frappées par les tempêtes, elles disparaissent. Plutôt que de rester debout, elles se sont écroulées. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'elles n'avaient pas une solide fondation. Chers amis, tôt ou tard, nous serons tous frappés par les tempêtes de la vie. Il vaut mieux nous assurer que nous avons une bonne fondation qui soit solide afin de tenir bon contre les vents, contre les torrents et les tempêtes de la vie. Car seule la maison qui a comme fondation la personne de Jésus-Christ résistera à toute agression provenant de ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.